Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Marine Le Pen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle Cannes. Un homme qui tente de poignarder des policiers. L'un des policiers tire. L'homme est entre la vie et la mort. Le danger terroriste est toujours là.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai le sentiment que ce type de fait se banalise. Comme si il y avait une forme d'habitude. Moi, j'appelle les Français à pas s'habituer à cette situation. En réalité, assez régulièrement, hein, dans notre pays, alors il y a des attentats terroristes ou des tentatives d'attentats. Je me réjouis d'ailleurs que ce policier soit sain et sauf, mais parce que je pense qu'on ne fait pas le nécessaire en réalité en amont. C'est-à-dire qu'on continue au fil de l'eau, comme si à peu près. On était dans une situation normale. Les fichiers au FSPRT étrangers ne sont pas expulsés de manière systématique. Voilà, je pense qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire.
Mais quand vous écoutez, je ne sais pas si vous l'avez écouté, vous avez peut-être autre chose à faire, Arnaud Montebourg qui dit expulsons les étrangers qui sont coupables, qui doivent être expulsés de France, mais beaucoup de pays ne veulent pas récupérer leurs nationaux. Alors une solution, bloquons tous les transferts d'argent vers ces pays-là. C'est une solution ou ça vous fait sourire ?
Non, ça me fait sourire parce que c'est une solution que j'ai proposée il y a déjà un certain nombre de mois. Oui. Celle-là et l'action directe sur les visas. Moi, je pense qu'il faut forcer les pays à respecter le droit international.
Comment ?
Comme ça.
Comme ça ?
Comme ça, oui.
Tous les transferts d'argent vers ces pays-là.
Alors, on arrête les visas tant que le pays ne reprend pas les personnes qu'il doit reprendre. Et deux, effectivement, on bloque ces sommes qui sont assez considérables et qui sont envoyées chaque année de France à destination des pays d'origine. Ainsi d'ailleurs que l'aide internationale, hein, parce qu'il n'y a aucune raison, encore une fois, de financer des pays qui ne respectent pas le droit international.
Le Covid, reprise épidémique forte en Europe, reprise en France aussi, un peu moins forte. L'OMS nous alerte, l'épidémie pourrait faire 500 000 morts, je dis bien 500 000 morts en Europe d'ici à février. Demain soir, Emmanuel Macron prendra la parole. Que feriez-vous, présidente de la République? Quelles mesures sanitaires prendriez-vous?
D'abord, permettez-moi de vous dire que je me méfie des prévisions, des prédictions de l'OMS. J'aurais réagi totalement différemment depuis le début de cette crise sanitaire, donc je n'ai pas de difficulté à le dire. Je pense que le président de la République, se sert de cette crise sanitaire parce qu'il pense que cette crise sanitaire le sert. Voilà. Donc il fait durer le suspense indéfiniment. Moi, j'aurais mis en place les moyens de détecter en préventif les clusters. C'est-à-dire que j'aurais développé massivement l'analyse des OUG dont on a vu que c'était extrêmement efficace. Ça permet deux ou trois jours avant l'émergence d'un cluster de voir où ce cluster va émerger pour pouvoir évidemment préventivement mettre les gens en situation de ne pas contaminer les autres. Deuxièmement, j'aurais laissé la liberté de prescription aux médecins parce que c'est quand même la première fois, me semble-t-il, que c'est l'État qui impose aux médecins les médicaments ou interdit aux médecins les médicaments pour soigner telle ou telle affection. Moi, j'ai confiance dans les médecins et donc je leur aurais laissé la liberté de prescription. Or, ça n'est pas le choix qui a été fait. Le choix est un choix toujours de contrainte. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le vaccin. Je voudrais revenir sur le vaccin parce que, si vous voulez, on a eu le sentiment qu'on nous avait à chaque fois annoncer des choses qui soit n'ont pas eu lieu, soit fait des promesses qui ne se sont pas révélées exactes. On nous avait dit, si tout le monde se vaccine, on sera tranquille. Bon, tout le monde s'est vacciné, peu ou prou, hein, et en réalité, on voit bien...
Pas tout le monde. On est à 76% de taux de vaccination, l'un des taux les plus élevés d'Europe.
Parce que vous incluez des enfants et que je ne souhaite pas qu'on vaccine d'ailleurs par ailleurs.
Les 5-11 ans.
Mais voilà, je le dis clairement devant vous. Oui. Hein. Moi, je ne souhaite pas vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Voilà. Je pense que c'est faire prendre un risque dont le bénéfice n'est pas du tout assuré. La situation est la suivante.
Vaccinés,
la situation est la suivante.
Oui.
En réalité, on maintient le pass sanitaire.
Oui.
Soit le vaccin est utile et le pass sanitaire n'a plus lieu d'être, soit le vaccin n'est pas utile et le pass sanitaire n'a
mais
plus lieu d'être.
Mais est-ce que le pass sanitaire n'a pas servi aux Français à se faire vacciner ? Est-ce que ça n'a pas servi à inciter à la vaccination ? Le pass sanitaire,
oui, mais
franchement.
Donc le pass sanitaire a servi, vous avez parfaitement raison de le dire, à obliger les Français à se vacciner. C'est donc un pass vaccinal. Il n'y a qu'un malheur, c'est que nos autres institutions ont considéré qu'on ne pouvait pas utiliser le pass sanitaire pour forcer les gens à se vacciner. Donc en réalité, on contourne la loi et en contournant la loi...
Fallait mettre en place quoi ? Une obligation
vaccinale ?
Pardon,
mais en contournant la loi, on contourne les libertés. C'est pas anodin. Je veux dire, on est en train de parler des libertés individuelles, des grandes libertés publiques. Ça n'est pas anodin. Alors, on peut, et les Français peuvent accepter de concéder une partie de leur liberté si vraiment c'est proportionné, encore une fois, au but à atteindre. Aujourd'hui, il n'est pas le sentiment que le but à atteindre ait été atteint. La preuve, d'ailleurs, c'est que demain soir, le président de la République va à nouveau prendre la parole sur ce sujet.
Oui, sauf que dans de nombreux pays d'Europe, l'épidémie galope beaucoup plus vite que chez nous en France. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de pays, on n'a pas de taux de vaccination élevé. Je pense à tous les pays de l'Est, notamment. Dans les pays où la vaccination est forte, le taux est beaucoup moins, le taux d'infection est beaucoup plus faible. On le sait, notamment en Espagne, en Italie, par exemple.
Non, mais personne n'a trouvé le modèle, manifestement.
Le modèle, plus il y a de vaccinés, moins il y a de monde à l'hôpital. C'est ça le modèle.
Oui, enfin,
non.
Surtout, le problème, c'est que en France, c'est que plus il y a de crise sanitaire, et moins il y a de lits dans les hôpitaux. Vous voyez, et moins il y a de médecins dans les hôpitaux, et moins il y a d'infirmières dans les hôpitaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais fait. Vous voyez, j'aurais pas baissé, par exemple, de 5700 le nombre de lits dans les hôpitaux en 2020, c'est-à-dire en pleine crise sanitaire. Je n'aurais pas suspendu 15 000 soignants, alors même que on a évidemment besoin des soignants parce que, comme dit le président de la Fédération hospitalière de France. L'hôpital français est le premier désert médical. Il y a 30% des postes qui n'y sont pas pourvus.
Les non-vaccinés risquent une hospitalisation et la réanimation, on est bien d'accord. Ils occupent des lits qui pourraient être utiles pour des patients souffrant de graves pathologies. Est-ce acceptable moralement ?
Non, mais c'est quoi votre solution ? C'est de ne pas
solution,
les soigner ?
Non, ma solution. Par exemple, je vais prendre un parallèle.
Non, mais cette société-là...
Marine Le Pen.
Cette société, je n'en veux pas.
Un skieur hors piste. Il y a risque d'avalanche. Va quand même skier hors piste. Est-ce qu'il doit payer les secours ou pas ?
Mais cette société, M. Bourdin, que vous décrivez là... Oui. J'en veux pas. C'est la société d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas de cette société-là. Parce que si on commence comme ça, Monsieur Bourdin, ceux qui boivent de l'alcool seront pas soignés, ceux qui fument seront pas soignés, ceux qui ont des kilos en trop seront pas soignés. Je trouve ça ignoble, c'est inhumain, c'est profondément contraire à ce en quoi je crois. C'est profondément contraire dans les valeurs de la France. Donc arrêtons avec ces folies, cette dérive, qui encore une fois est une dérive. Qui va pousser nos dirigeants à des décisions inhumaines si ils prennent cette voie-là.
Demain, nous serons le 9 novembre. Il y a 51 ans, vers 19h, le général de Gaulle décédé chez lui à Colombey. La bataille politique autour de son héritage s'intensifie. Marine Le Pen, certains candidats à la présidence de la République iront à Colombey. Le Premier ministre également. Pourquoi cette prétention à penser ce que ferait De Gaulle 51 ans après ?
Non, mais c'est pas tellement ça question. La question,
c'est pas la question. Pourtant, on fait dire à De Gaulle tant de choses aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est au-delà de la figure du général De Gaulle, c'est son héritage politique. C'est-à-dire, c'est les grandes lignes qu'il a données à la France. Et dans ces grands principes auxquels il croyait, on peut voir quand même aujourd'hui, de la part d'une partie de la classe politique, des contradictions qui sont des contradictions majeures. C'est quand le général De Gaulle défend la souveraineté de la nation comme il l'a fait, pas seulement dans les mots, mais également dans les actes, on peut se poser la question de savoir si, par exemple, la soumission de la France à une autorité extranationale comme l'Union européenne, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, correspondrait à cette vision. Quand on voit la guerre de tous contre tous qu'a imposé Emmanuel Macron dans le pays, on peut se poser la question de savoir ce que le général de Gaulle, qui était si attaché à l'unité du pays pourrait penser de cela. Et puis, il y a les institutions. Vous voyez, en 46, il a fait un discours sur les institutions. Moi, demain, je fais un discours à Bayeux.
Je vais vous en parler.
Au même endroit. Parce que je pense que les institutions qu'il avait conçues, qu'il avait réfléchies, ont changé aujourd'hui de nature. Je suis pas sûr que ce soit au bénéfice des Français.
Donc, vous allez, si vous êtes élu président de la République, changer la Constitution, modifier la Constitution et modifier les institutions. Je vais y revenir. Discours à Bayeux, effectivement. Vous serez aussi à Courseulles-sur-Mer pour déposer une gerbe. En l'honneur de la résistance, je vais y revenir aussi à travers les propos d'Éric Zemmour. Mais revenons sur la Constitution. Réforme de la Constitution, si vous êtes élu président de la République, un septennat non renouvelable, c'est ce que vous voulez?
Oui. Oui, je souhaite un septennat non renouvelable parce que je pense que le quinquennat a eu des conséquences extrêmement néfastes sur l'équilibre de nos institutions, notamment en faisant en réalité de l'Assemblée nationale non plus une assemblée de représentants du peuple, mais de défenseurs du président de la République.
Et puis un scrutin proportionnel, ça De Gaulle n'en voulait pas.
Oui, il n'en voulait pas, mais je
j'allais
pense...
dire l'époque a changé.
Oui, en réalité, oui, l'époque a changé. Oui. Donc j'assume totalement cette contradiction avec le général de Gaulle, mais je pense que dans les institutions qu'avait envisagé de Gaulle, la représentativité du peuple français était absolument essentielle. Peut-être qu'à l'époque, cette représentativité était aboutie par le système majoritaire à deux tours qu'il avait conçu. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, quelle que soit sa couleur politique, on ne peut pas ne pas constater que l'Assemblée nationale n'est pas représentative des forces politiques en puissance en France. Et ça aussi, évidemment, ça a des conséquences sur le lien distendu qui existe aujourd'hui entre les Français et la politique.
La mise en place d'un droit différencié entre les étrangers en situation régulière et les Français?
Oui, c'est la priorité nationale. Bien entendu, je pense que les Français...
Donc, modification de la Constitution.
Oui, j'intègre la priorité nationale dans la Constitution. La priorité nationale, ça consiste à penser que les Français ont effectivement plus de droits, ou un droit en quelque sorte...
Que l'étranger en situation régulière.
Que l'étranger en situation irrégulière, parce que Français...
Non, je parle de l'étranger en situation régulière.
Oui, mais même régulière. Le Français...
Régulière.
Bien sûr, car le Français, il est chez lui.
Quels sont les droits que le Français aurait en plus par rapport à l'étranger en situation régulière?
Régulière. Alors, par exemple, les allocations familiales seront réservées exclusivement aux Français. Parce que je considère que la politique de natalité qui doit être mise en œuvre est une politique de natalité française.
Et les contrats de travail?
Je pense qu'il faut permettre aux employeurs de donner en priorité accès à l'emploi à un Français. De la même manière, je pense que le logement social...
Un étranger en situation régulière.
Oui, je pense également...
Et les impôts.
Attendez, laissez-moi juste terminer.
Allez-y,
pense également que dans le logement social, il est parfaitement naturel que que les Français aient un avantage, une priorité d'accès au logement social par rapport à un étranger, y compris en situation régulière.
Et les impôts?
C'est-à-dire?
L'étranger en situation régulière, qui aurait moins de droits, paierait tout de même les mêmes impôts, les mêmes charges sociales que le Français.
Pardon, mais il n'a pas moins de droits.
Il n'a pas accès à certains droits.
Oui, pour les allocations familiales, c'est vrai.
Les allocations familiales, les contrats de travail, ce n'est pas le même droit.
Le logement social.
Logement social, oui, pas le même droit, mais ils paieraient les mêmes impôts.
Non, mais le logement social, il a été payé déjà, figurez-vous, par les Français, par leurs parents et par leurs grands-parents. Donc c'est un peu normal que ce soit les Français qui en bénéficient. En revanche, pour ce qui concerne les prestations, si vous voulez, les prestations qui donnent lieu précisément à des cotisations, moi ce que je réclame, c'est que les étrangers en situation régulière puissent y avoir accès au bout de 5 ans équivalent temps.
Ils paieraient les mêmes impôts, les mêmes charges sociales.
Oui.
Avec moins de droits.
Oui.
Oui. Est-ce que c'est constitutionnel? Faudrait réformer la Constitution.
C'est exactement ce que je compte faire par l'intermédiaire d'un référendum que je vais soumettre aux Français.
À condition que le Conseil constitutionnel donne son aval.
Ah non, pas du tout. Le Conseil constitutionnel ne peut pas donner son aval sur le contenu d'une réforme constitutionnelle. Sur le contenu d'un référendum constitutionnel, aucun texte ne lui en donne la possibilité.
Le Conseil constitutionnel doit se prononcer avant.
Non, monsieur Bourdin, je vous le répète, le Conseil constitutionnel n'a pas à donner son avis.
De près.
Il a à donner son avis sur la procédure du référendum et le respect des règles de procédure. procédure de mise en œuvre de ce référendum, mais pas sur le contenu du référendum.
Si Zemmour se rendait à Colombey, je lisais ce qu'écrivaient certains historiens, si Zemmour se rendait à Colombey sur la tombe de De Gaulle, ce serait un crachat sur la tombe du général, disent de nombreux historiens. Est-ce que vous le pensez ?
Non, mais moi, je veux pas commenter les commentaires, si vous voulez, c'est pas mon rôle. Je pense que je suis candidate à la présidentielle, donc ça n'est pas le rôle qui est le mien. Ce que je note, c'est que Éric Zemmour a tendance à vouloir créer la polémique en toutes circonstances. Mais il est un polémiste. En même temps, c'est pas très étonnant. Les polémistes polémiquent. Mais moi, je suis pas polémiste. Je suis candidate à la présidentielle.
Marine Le Pen, il était hier, Éric Zemmour sur BFM. Marine Le Pen ne pourra jamais gagner. C'est ce qu'il a encore répété hier. Les électeurs n'oublient pas son débat d'entre-deux tours, a-t-il ajouté. Éric Zemmour pourrait-il, lui, gagner Marine Le Pen ?
Bon, d'abord, le propos n'est pas très élégant, il faut être honnête. On n'est pas sur le fond politique, là. Hein. Mais non, la réalité, c'est que la promesse qu'il fait, qui est la promesse de pouvoir gagner quand les autres ne le peuvent pas, n'est pas tenue. D'ailleurs, l'intégralité des études d'opinion qui sont faites sur le second tour démontre que, autant j'ai, moi, la capacité de gagner face à Emmanuel Macron, autant lui n'en a pas du tout la capacité. Donc, en fait, c'est une promesse non tenue. Et comme cette promesse n'est pas tenue, la vraie question, c'est à quoi sert cette candidature, en réalité ?
À quoi sert-elle ? Je vous pose la question.
Bien, je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi elle sert. Ce que je vois,
à vous
moi,
faire
c'est
perdre,
qu'aujourd'hui...
À vous faire perdre.
Aujourd'hui, elle sert en tout cas à Emmanuel Macron, ça c'est une certitude, puisque... Elle a pour vocation de diviser l'opposition qui devrait se présenter unie face à Emmanuel Macron pour avoir toutes les chances de le battre. Mais je ne vois pas bien, encore une fois, à quoi elle sert, mais même pas sur le fond, Monsieur Bourdin. Parce que au-delà des propos extrêmement polémiques qui ont vocation à buzzer, à faire réagir et qui parfois blessent au passage d'ailleurs, mais sur le fond des propositions...
Il vous a blessé, vous vous sentez blessé.
Non, mais,
parfois par ses propos vis-à-vis de vous.
Non mais moi je parle pas des propos qui me concernent moi.
Oui.
Je parle des propos qui concernent les prénoms.
Je vais
qui
revenir les prénoms, les femmes,
bon,
les femmes aussi. Je vais y revenir.
Les femmes.
Est-ce qu'il est le représentant à vos yeux d'une France de Nantes, une France bourgeoise conservatrice et un peu raciste ?
Je vous pose franchement la question. Vous dites la fin un petit peu comme ça pour me.
Non. Pas pour vous. Mais
non mais je pense que il dit lui-même.
Vous la connaissez cette France, Marine Le Pen.
Il souhaitait le candidat de la bourgeoisie.
Oui.
Bon, moi j'avoue que cette manière de voir les choses est assez particulière parce qu'encore une fois, je rappelle que le président de la République doit être le président de tous les Français. Donc commencer une campagne en disant les chômeurs et les ouvriers, il faut les laisser dans un ghetto. Les femmes n'ont pas vocation à prendre une part égale dans la société française. C'est déjà une manière, encore une fois, qui est, je trouve... qui va le conduire, à mon avis, à un échec.
Les inégalités de salaire sont marginales, disait-il hier. Les femmes choisissent des métiers qui sont les moins bien payés, c'est leur liberté. Leur liberté, Marine Le Pen ?
Je ne sais pas ce qu'il a. Il y a un problème avec les femmes,
avec
manifestement, Éric Zemmour.
Une femme est le butin de tout homme, c'est ce qu'il disait.
Oui,
c'est le butin de tout homme.
Non, mais il a une vision très dégradée des femmes. Moi, j'avoue que les propos qu'il a tenus sur les femmes pendant Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant entendre qu'elles s'étaient bien amusées pendant que leurs maris étaient au front, pour le coup, m'ont véritablement heurté et blessé. Puisque vous me disiez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé ? Vous voyez, ça m'a blessé. Quand il laisse entendre que les femmes françaises se seraient données aux Allemands puis aux Américains, oui, ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que je suis comme tous les Françaises et comme tous les Français. C'est-à-dire que j'ai une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui s'est rongée les sangs, s'est battue pour nourrir leurs enfants pendant la guerre. Et avoir une vision aussi dégradée des femmes françaises et l'exprimer ainsi. Alors même qu'il dit en permanence, on dit trop de mal de la France, nos élites dénigrent la France, mais quel meilleur moyen de dénigrer la France que de dénigrer l'ensemble des femmes au travers presque des siècles. Les femmes ne méritent pas ça. Honnêtement, elles ne méritent pas ça.
Les femmes ne méritent pas Zemmour.
Non, mais elles ne méritent pas d'être traitées comme ça. Elles sont pour beaucoup de véritables héroïnes. Elles élèvent des enfants parfois seules. Elles se battent dans des métiers qui sont difficiles.
Mais pourquoi cette misogynie ?
Mais je sais pas.
Pourquoi ?
Non, mais je suis pas psychiatre, moi. Je me moque de savoir qu'est-ce qui justifie cette agressivité à l'égard des femmes. Je note que les femmes méritent, encore une fois, d'être respectées, et elles méritent d'être soutenues, elles méritent d'être défendues, et elles ont toute leur part à prendre dans la vie française, économique, politique, littéraire, institutionnelle, artistique, etc., etc.
Où en êtes-vous de vos parrainages, Marine Le Pen ?
Je rame, comme tout le monde, je crois.
Vous pourriez ne pas être...
Mais moi, je pars toujours, je m'attends. Si vous voulez, j'essaye d'avancer en pensant au pire, parce que je pense que c'est ça aussi le rôle d'un politique.
Combien aujourd'hui?
Pour l'instant, au moment où nous nous parlons, j'ai pas de raison de m'inquiéter, mais je note.
Combien?
Non, mais je sais pas précisément, monsieur Bourdin, nous avons déjà, si vous voulez, un matelas d'élus. Mais presque, j'ai envie de vous dire, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres candidats que je parle. Parce que, vous voyez, moi, je crois à la démocratie. Et je ne me réjouis pas de voir que Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, ou peut-être d'autres, pourraient ne pas avoir les parrainages. Et je viens demander solennellement, d'ailleurs, pour la énième fois dans votre émission, que Emmanuel Macron fasse preuve de courage et qu'il fasse en sorte que les parrainages des maires ne soient plus publics. Car c'est la publication du parrainage des maires qui permet à un certain nombre de gens qui ne sont pas des démocrates de faire pression sur eux. Ça n'apporte absolument rien sur le plan du fonctionnement de notre démocratie, si ce n'est que ça l'entrave.
Et le financement de votre campagne ?
Eh bien pareil, nous cherchons une banque. Aujourd'hui, les conditions de financement des campagnes présidentielles sont de plus en plus restreintes. Ceux qui n'ont pas un accès privilégié aux banques, certains manifestement en ont, sont dans la difficulté. Alors nous en appelons aux Français, parce qu'il n'y a que les Français qui, en l'occurrence, peuvent venir nous aider pour mener à bien cette bataille décisive.
Deux mots, pouvoir d'achat, qui est sans doute aujourd'hui la préoccupation première des Français. Vous proposez une TVA 5,5 sur les produits de première nécessité au lieu de 20, les produits de l'énergie.
Voilà, c'est ça.
Essence, électricité.
En fait, je propose que l'énergie soit considérée comme un produit de première nécessité. C'est 12 milliards qu'on rend aux Français. C'est absolument essentiel parce qu'il est inadmissible en 2021 qu'en France, des gens choisissent de ne pas se chauffer suffisamment ou de ne pas se chauffer du tout d'ailleurs, ne puissent pas circuler, ce qui est le cas dans la ruralité, bien sûr, car la voiture, elle est essentielle dans la ruralité, ou renonce à s'éclairer.
Bon, ça. Temporairement, cette baisse.
Définitivement.
Définitivement.
Oui, définitivement.
Bien, j'ai une dernière question sur la chasse, Marine Le Pen. Yannick Jadot propose d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. C'est une bonne idée.
Non, mais pas du tout. Mais c'est-à-dire interdire la chasse, en fait. Parce que la réalité, c'est qu'il croit que quoi ? Il croit que les chasseurs ne travaillent pas ? Il croit que ce sont des gens qui sont oisifs, comme ça, à ne rien faire de la semaine ? Bon, ça n'a pas de sens. Moi, je suis contre l'interdiction de la chasse, donc la situation me paraît très claire. Je suis pour que les règles de la chasse soient respectées avec fermeté. C'est-à-dire que quand il y a des comportements qui rompent avec les
règles... Mais les chasses règles, traditionnelles, les chasses de certains oiseaux, vous êtes contre ?
Moi, à titre personnel, si vous voulez, il y a des choses qui me heurtent. Mais encore une fois, l'interdiction de la chasse que la propose ce Jadot, sans se rendre compte des conséquences que ça a sur la ruralité. Parce qu'il faut penser tout de même les conséquences que ça peut avoir sur la ruralité. Au-delà du fait que c'est une liberté immémorielle, si vous voulez, pour peu qu'on en respecte les règles, encore une fois, car il y a des règles, moi-même je ne chasse pas, mais je sais qu'il y a des règles, c'est aussi toute une organisation, une surveillance du territoire qui est absolument essentielle. Si nous n'avons pas si nous n'avions pas les chasseurs, croyez-moi, on se rendrait compte, ne serait-ce que visuellement, des conséquences que ça aurait sur notre pays, sur nos paysages, sur même l'organisation de la ruralité.
Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.